C'est de la pluie qui fasse beau. Pinky est toujours là. Et avec Pinky, bien sûr, Dominique. Bonjour Dominique.
Bonjour William, bonjour JB. Ami du bout des ondes, bonjour. Par ce temps brumeux, on va rester dans l'ambiance londonienne.
Voilà, on va traverser la Manche une fois de plus.
On va traverser la Manche, on va aller voir un film qui est proposé par les Cramés de la Bobine cette semaine, c'est Imitation Game, un film britannique de Morton Tyldum. C'est un film qui est, en fait, c'est un biopic. Hein, c'est un biopic qui va traiter d'une partie de la vie d'un formidable mathématicien et cryptologue. C'est Alan Turing. On se situe dans les années, au début des années 40, en Angleterre, et le gouvernement britannique charge donc Alan Turing, mathématicien et cryptologue, de déchiffrer et percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma. Réputé inviolable. Enigma, c'était tous les messages que passait codifié le régime nazi, qu'on n'arrivait pas à trouver. Alors Alan Turing va construire une équipe, son équipe. Alors déjà rien que cette séquence, elle est assez difficile, parce que lui-même est difficile, Alan Turing, c'est pas un personnage.
Bah, on imagine déjà ce qu'il a découvert, déjà il faut être un peu tortueux au niveau de l'esprit pour essayer de décrypter.
Donc en fait, il va choisir une équipe, mais pas celle qu'on lui impose, celle que lui il a envie d'avoir, ce qui est après tout un bon choix.
C'est pas mal.
Et à partir de là, ce scientifique va déployer son génie de mathématiques pour concevoir une machine capable de l'impossible, donc c'est craquer Enigma. Alors il doit arriver à craquer Enigma, mais dans un temps relativement limité. Évidemment, la guerre elle est quand même là, et il y a beaucoup de morts partout, et il est bien sûr mis sous la pression extrêmement forte de ses supérieurs, les officiers de l'armée. Ça, c'est des gens qui considèrent pas du tout, pratiquement chaque fois qu'il prend du temps Turing pour réfléchir à son projet, c'est une perte de temps pour l'armée,
hein. Alors bon, des morts en plus.
Et donc on lui demande du résultat, du travail, et ça aille très vite.
Donc là, on lui met la pression, quoi.
Une énorme pression. Bon. Et comme c'est un personnage qui est quand même particulier, qui a un mental différent du nôtre...
Dans son monde.
Ah, il est complètement dans son monde. Alors ça va faire ce film et cette histoire assez extraordinaire de Alan Turing. On va se mettre dans l'ambiance du film tout de suite en écoutant la bande-annonce.
What did you do during the war?
I worked in a radio factory.
What did you really do during the war?
Are you paying attention?
If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed.
It's beautiful. It's the greatest encryption device in history. The Germans use it for all major communications.
Everyone thinks Enigma is unbreakable.
Let me try, and we'll know for sure.
Mr. Turing, do you know how many have died because of Enigma?
No, I don't.
Three. While we've been having this conversation.
What is it that we're really doing?
We were going to break an unbreakable Nazi code.
Oh.
To pull off this genius routine, one actually has to be a genius.
Why are you building a machine?
The machine will allow us to break every message and win the war.
You could have helped us, but you won't. You will never understand the importance of what I am creating here.
Just a mathematician.
You've got more secrets than the best of them.
Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine.
Voilà, extrait donc de la bande-annonce du film Imitation Game, donc qui va être diffusé du côté de la Disney, voilà, dans le cadre des Cramés de la Bobine.
C'est un film de Morton Tyldum. Alors, on voit ce film, il va se décliner en trois époques. Déjà, on aperçoit l'adolescence d'Alan Turing, et notamment lorsqu'il est au pensionnat. Et on perçoit déjà un jeune homme très très différent des autres, dans tous ses comportements, dans toutes ses situations, il a quelque chose de différent.
C'est lointain, c'est taciturne.
Oui, un peu isolé, voilà. Et puis ensuite, c'est une des grandes parties du film, c'est le décryptage, hein. C'est bien sûr comment va-t-il réussir à percer le secret du code Enigma avec lequel les Allemands cryptaient leurs messages pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est la partie la plus longue du film, bien sûr. C'est celle qui démontre le système et qui démontre la mécanique. Et il va construire une machine absolument fabuleuse. Aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais on a sacrément minimaturé.
On en a quelques-uns aujourd'hui qui l'utilisent nous-mêmes, par exemple. Ouais. Cet Einstein de l'informatique, peut-être.
Voilà. Et puis, la fin du film, c'est aussi la disgrâce. Hein. Alan Turing est marqué par la solitude et un manque de reconnaissance de ses anciens patrons. À la fin de sa vie, il a été maltraité, traité en justice d'ailleurs un peu pour des affaires qui n'avaient pas grand-chose à voir d'ailleurs avec sa découverte. Et donc ce film est forcément aussi un hommage à ce grand mathématicien dont on découvre les joies et les jubilations scientifiques et les douleurs intimes. Et effectivement, il est comme tous les personnages, il a ses points faibles, hein, bien sûr. Mais on peut se poser la question, est-il seulement sur la même planète que nous ?
Non, parce que je pense qu'il doit être du début jusqu'à la fin du film. Hein, c'est un peu le synopsis.
Ouais.
C'est lui et sa machine, en fait.
Ouais. Alors, il est très concentré, il s'enferme souvent dans son univers, dans ses schémas de pensée. Ce qui le conduit à agir de manière excentrique. Son côté asocial, ça c'est très marqué.
Rationalité.
Ah oui, et c'est aussi contrebalancé par son amitié avec la scientifique Johan Clark, cette femme qu'il a intégrée dans son équipe.
Il n'a pas pris la plus moche.
Ça c'est l'actrice du film, mais il a prise aussi dans son. Il a fait venir dans son équipe parce que cette femme va résoudre une énigme plus rapidement que lui. Donc c'est assez. Donc toute son équipe, elle est conçue
d'où
comme ça.
Ce syllogisme, l'union fait la force.
Ouais, enfin ça c'est sûr qu'il y a la force là. Alors William, je crois que on peut dire sans galvauder les propos que c'est bien sûr l'inventeur de l'ordinateur.
Petite marque à la pomme.
Voilà, la marque à la pomme. Alors ça, on va en parler parce que ça crée une discussion. On sait qu'Alan Turing est décédé à la fin des années 40-50 en consommant une pomme qui était infectée au cyanure. Donc, certains disent, mais la marque aujourd'hui Apple, c'est un hommage et une référence à Alan Turing. Pas du tout, c'est absolument pas ça. Il y a une autre version. Alors, cette autre version, on pourra peut-être la développer dans le débat de mardi soir, puisque c'est Henri Fabre qui va animer cette soirée.
Il vient avec ses pommes.
Il va venir, oui, enfin, peut-être des croqueurs de pommes aussi, peut-être. Hein.
Ah, qui sait.
Mais toujours est-il que ça sera un axe de discussion dans le débat. Ce film donc est réalisé par Morten Tildum, c'est un Norvégien. Alors, dans la constitution du film, il y a beaucoup de gens de toutes les nationalités, hein, des Anglais, des Irlandais, des Américains. Morten Tildum, c'est un réalisateur qui a 47 ans, Norvégien, qui est né à Bergen. Bergen, c'est dans la pointe sud de la Norvège. Il vient de réaliser donc son quatrième long métrage.
Qui a été occupé par les Allemands longtemps, d'ailleurs.
Et voilà. Et c'est un monsieur qui a fait beaucoup de courts-métrages, quelques mini-séries, des pubs télé, et puis aussi des clips vidéo, puis après il s'est lancé dans le cinéma. Et je voudrais dire autre chose, c'est que Imitation Game, c'est un film qui a été nominé aux Oscars 2015 cinq fois. Et il a été oscarisé quand même une fois pour le meilleur scénario adapté de la biographie de Alan Turing qui avait été écrite par Andrew Hodge. C'est le seul Oscar obtenu en ayant eu 5 nominations. C'est beaucoup hein, quand même. Hein.
C'est vrai.
Et alors je voudrais aussi ajouter une anecdote, c'est que comment ce film a pu venir être mis en place, mais simplement le metteur en scène a écouté un jour à la radio un discours du Premier ministre Gordon Brown. Et celui-ci faisait des excuses publiques à Alan Turing à travers l'Angleterre pour l'expliquer qu'en fait c'est ce qui s'était passé par rapport à Turing, c'était pas bien, il avait eu un mauvais traitement, il avait été humilié, un peu torturé moralement, et ça a donné l'idée à Morten Tildum de faire ce film Imitation Game, qui était un sujet pas top secret, mais qui n'était pas très très connu quand même. On n'en parlait pas beaucoup de ce décryptage de Enigma. Et puis, j'ai parlé de deux acteurs qui sont forts. C'est Benedict Cumberbatch. C'est un Anglais de Londres. Il a 28 ans. il porte le film d'une façon extraordinaire. Il était nominé pour les Oscars. C'est pas lui, hein, c'est Birdman qui a eu le film, c'est pas lui. Mais en fait, c'est un acteur qui est passé par le théâtre, comme beaucoup les Anglais, hein, est passé par le théâtre, la télé. Maintenant, il fait du cinéma.
L'histoire ne dit pas s'il a été adepte des mathématiques.
Non, je pense. Ça, on peut pas dire, mais ça serait simplement un pur hasard, je crois. Mais par contre, ce monsieur Benedict Cumberbatch, il est acteur dans plus de 40 films, et notamment dans un film oscarisé en 2014, c'est 12 Years a Slave. Il a un rôle dans ce film. Il y a une actrice britannique qui s'appelle Keira Knightley, qui a 30 ans, qui est, comme vous disiez justement, un connaisseur, elle est très belle.
Elle est intelligente, elle a des atouts.
Ouais, elle est enfant de la balle, ses parents étaient artistes. À 16 ans, on la trouve tout de suite dans un rôle qui va la lancer au cinéma, le rôle de Sabé dans Star Wars. La menace fantôme, tout de suite elle commence comme ça, donc ça part très vite pour elle, et puis on la trouvera dans un très joli film qui est sorti l'année dernière en France, un film John Carnes, c'est New York Melody, où elle est chanteuse là. Elle est chanteuse, elle a le rôle principal, on la trouve dans Anna Karenine de Joe White, elle a le rôle principal d'Anna Karenine, et puis elle est dans Dangerous Method, le film de David Cronenberg avec la ville.
Donc la jeune génération d'acteurs britanniques montante. Ouais.
Et on la trouve même dans Pirates des Caraïbes. Donc elle est.
Ah oui, c'est vrai. C'est ça en fait que j'essaie.
Elle a 30 ans, cette actrice. Elle a une filmographie extraordinaire, avec des choix forts, toujours des rôles principaux.
Ça, pas avec des petits réalisateurs et pas avec des petits acteurs.
Non, c'est assez remarquable. Ouais. Alors, pour voir cette actrice, ce film et l'ensemble, eh bien, je vous donne rendez-vous, mes chers auditeurs, demain dimanche à 18h à l'Altice Ciné. Lundi, c'est 13h30, traditionnel. Et puis mardi, donc 20h30, on a notre ami Henri Fabre qui va animer le débat de ce film Imitation Game de Morton Tilden. On fait une pause musique, mais là, on ne va pas faire n'importe quelle pause musique. On va écouter le thème principal de Imitation Game qui a été nommé aux Oscars. Il ne l'a pas eu, mais c'est le même auteur, c'est Alexandre Desplat qui a l'Oscar, mais pas pour ce film-là. Pour The Grand Budapest Hotel. Alors, en fait, il était présent deux fois aux Oscars pour deux films différents. Oh bah, donc, 2/5, c'est pas mal. Hein. Donc, on écoute cette bande musicale, The Imitation Game.
Le comité des fêtes et le comité de jumelage de Bellegarde organisent leur grand carnaval le dimanche 22 mars. À cette occasion, vous pourrez admirer de nombreux chars sur le thème du voyage autour du monde. De groupes musicaux nombreux et variés assureront une ambiance festive. Rendez-vous à 14h30 devant la salle des fêtes. N'hésitez pas à venir déguiser. La maison d'accueil rurale pour personnes âgées, les Néfliers, située aux deux routes de Sully à Néploy, vous ouvre ses portes le samedi 21 mars de 14h à 18h. Une visite de la maison d'accueil est prévue. Vous rencontrerez les résidents, les responsables et le personnel répondront à vos questions. Un goûter convivial aura lieu. Marpa, un vrai chez-soi, ouvert sur la vie. Les personnels et les élèves du lycée professionnel Jeannette Verdier vous accueillent lors de la journée porte ouverte le samedi 21 mars de 9h à 13h. Différentes formations vous sont proposées, 6 bacs professionnels, logistique, transport, ouverture à la rentrée 2015, gestion, administration, vente, augmentation du nombre de places cette année, accueil, commerce, 2 CAP, opérateur, opératrice logistique, métier de la mode. Le lycée propose un internat, une section européenne est possible dans le pôle vente, accueil, commerce. Les services administratifs seront également présents pour répondre à toutes les questions pratiques, orientation, bourse, internat, santé, social et bien d'autres. Le club de football américain et de cheerleading des Dogs de Montargis accueille les qualifications au championnat de France de cheerleading de la poule E le samedi 21 mars au complexe sportif du Château Blanc à Villemandeur. Ouverture des portes à 14h, début de la compétition à 15h. L'entrée est de 3€, 2€ pour les moins de 12 ans. Point restauration et buvette sur place. Renseignements disponibles sur le site www.dogsdemontargis.fr ou sur la page Facebook Dogs Cheers. L'ensemble scolaire Saint-Louis de Montargis vous ouvre ses portes le samedi 21 mars de 10h à 17h30. Venez découvrir les formations proposées, maternelle, primaire, collège avec option internationale, lycée général avec bac S ou ES, bac pro hôtellerie restauration, bac technologique hôtellerie, mise à niveau, BTS option AB. L'ensemble scolaire est équipé d'un internat. Pour tout renseignement, allez sur l'adresse www.saintlouis-montargis.com.
C2L.
C2L Radio. William sur C2L.
Et voilà, après cette sympathique pause publicitaire, on va retrouver Dominique, puisque ouais. L'actualité se bouscule.
Alors chez nous,
c'est des cramés de la bobine.
Voilà, donc jeudi soir, c'est le documentaire du mois, l'Altice Ciné à 20h30, un documentaire qui est présenté par Jean Jugnot. Ça porte le film Spartacus et Cassandra, un film de Yonis Nugget, qui est sorti récemment. Le thème, c'est deux enfants roms sont accueillis par un jeune trapéziste dans un cirque de la périphérie de Paris. Un havre de paix fragile pour ce frère et sa sœur de 13 et 11 ans. Déchirés entre le nouveau destin qui s'offre à eux et leurs parents vivants dans la rue, Spartacus et Cassandra vont devoir choisir. Alors c'est un film que nous animons avec le concours de Amnesty International local de Montargis, et on a la chance, William et chers auditeurs, d'avoir à l'antenne notre correspondant, c'est Bruno Jamais qui est fait partie de l'équipe lutte contre la discrimination d'Amnesty International France.
Eh bien bonjour Bruno Jamais.
Bonjour.
Bonjour.
Alors je dirais, je ne sais pas si parfois il y a des phénomènes de concordance, en tout cas sur la situation des Roms, j'ai relevé Bruno Jamais dans le rapport qui est publié par Amnesty International, pour ce qui concerne la partie française, le rapport 2014-2015, juste ce chiffre, peut-être qui parfois est loin de ce que peuvent penser les gens qui vivent dans notre pays, plus de 19 000 personnes vivaient au début de l'année dans 429 bidonvilles, et vous avez noté notamment dans ce rapport que la discrimination face aux Roms, hélas, sont de plus en plus récurrentes dans notre pays.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Enfin,
entre autres.
Oui, enfin, les discriminations vis-à-vis des Roms, en particulier qui vivent dans les campements illicites, les bidonvilles, en fait, se traduisent par des évacuations forcées répétées. Si vous avez lu dans le rapport.
Oui, oui.
Hein, ils ont tous été, en moyenne, c'est 2 ou 3 expulsions par individu, par Rom. Donc c'est ce qui est une discrimination pour accès aux droits, puisque du coup, ils n'ont pas de logement, pas de lieu pour vivre. ça pose problème pour le droit à l'école, pour le droit à la santé. Voilà, donc c'est effectivement...
Des droits qui sont inscrits dans notre Constitution et qui, hélas, fait qu'à l'arrivée, on a des citoyens de seconde zone.
Oui.
Alors, vous avez pointé dans ce rapport, je pense que ce n'est pas la première année, hein, cette situation et cette discrimination faite à cette population des Roms. Comment on pourrait... traduire année après année ce triste constat.
Pour l'instant, depuis quelques années où on suit de manière plus précise, ça ne s'arrange pas. Il n'y a pas d'amélioration. Il y a eu quelques modifications importantes qui avaient été annoncées mais qui n'ont pas été mises en pratique. Une circulaire qui doit encadrer le comportement pour les évacuations. Le préfet, on lui a donné des conseils, des consignes pour que les évacuations, si elles doivent avoir lieu, se fassent bien. Et finalement, ce n'est pas tellement mis en pratique.
Alors, quand on parle de discrimination, bien sûr, le focus là est, pour ce qui nous concerne, face à l'actualité de ce film Spartacus et Cassandra, bon, on a un focus sur les Roms, mais malheureusement, on vit dans un pays qui est la France où la discrimination ne touche pas seulement les Roms.
Ah ben non. Non, le film, effectivement, va le montrer un cas de discrimination. Enfin, c'est même pas un cas de discrimination. On va voir une famille rome qui est en difficulté et où la discrimination ne fait qu'aggraver la difficulté de cette famille. Mais il y a effectivement d'autres discriminations. Alors, les discriminations sur l'orientation sexuelle, par exemple, on en parle beaucoup. Il y a les discriminations sexuelles. Bien sûr, il y a des différences. Il y a les sélections de demain avec le montre, puisqu'il y a des décisions qui sont prises pour qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans les départements. Mais il y a d'autres discriminations qui existent. Base de religion, là, de plus en plus avec les événements, l'islam, peut-être une cause de discrimination. Enfin, il y en a plein d'autres, oui, effectivement.
La France a l'habitude de voyager un peu partout sur la planète entière pour expliquer que les droits de l'homme, c'est une notion importante pour un pays comme le nôtre. Et quand on regarde ce rapport pour ce qui est la partie française, puisque je rappelle que le rapport 2014-2015 d'Amnesty International dresse le bilan pays par pays, c'est pas très glorieux quand même pour un pays comme le nôtre.
Non, pas très, non. Pas très, avec des choses que l'on dénonce, enfin qu'Amnesty dénonce déjà depuis quelques années, qui ne s'améliorent pas. Bon, les commissariats, les prisons, les choses comme ça, c'est vraiment des zones quasiment de non-droit, enfin, pour exagérer, mais enfin, on n'a pas le niveau qui devrait être celui de la France, ça c'est vrai.
Alors, en ce qui concerne l'Amnesty International, qui, bien sûr, tous les dirigeants de chaque pays lisent parfois avec attention les rapports que vous effectuez sur la situation des droits de l'homme dans chaque pays du monde, qu'est-ce que permet ce type de rapport vis-à-vis de nos gouvernants, et puis qu'est-ce que on peut produire comme recommandations?
Alors, les recommandations, elles sont en général dans les rapports que nous faisons. Il y a toujours une partie recommandation. Le principe d'Amnesty, c'est de demander aux États de respecter les engagements qu'ils ont pris. Donc, tous les pays signent des accords internationaux, et chaque pays est tenu de respecter ces accords. Donc on écrit mondialement, hein, parce que pour ce qui concerne la France, beaucoup de membres d'Amnesty des autres pays vont écrire aux autorités françaises pour leur demander de respecter le droit. Et puis en France, eh bien, nous agissons aussi, mais c'est en étant en relation avec un certain nombre d'organismes nationaux qui sont là pour essayer d'inciter les gouvernements à respecter leurs engagements.
Alors vous serez présent ce jeudi dans le cadre du débat qui sera initié à l'issue de la projection du film Spartacus et Cassandra. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs sur ce film? Est-ce qu'il relate vraiment les conditions de vie ou le quotidien de ces populations, de cette population?
Ah bah, oui, c'est certainement. Hein. C'est le film qui est un documentaire de base, puisqu'en fait c'est bien le cinéaste à filmer une réalité qu'il voit, qui est là. C'est bien ça. On voit bien que ce sont des gens qui sont obligés de se cacher par moment, parce que face à des risques d'intervention des forces de police, ils se cachent pour ne pas être pris, puisqu'ils ne tombent pas en situation vraiment régulière, vraiment. Donc c'est bien ça, c'est bien cette espèce de pauvreté cette famille est complètement à la dérive, ne peut pas Alors, en même temps, on voit qu'il y a des autorités juridiques qui donnent des solutions, qu'il y a une famille d'accueil, et tout ça est mis en place, et on le voit bien. C'est effectivement, cette difficulté, on la voit très très bien dans ce film.
Moi, Bruno Jamais, je voudrais revenir un peu en arrière sur cette notion de discrimination. Vous faites partie de l'équipe lutte contre les discriminations d'Amnesty International.
Oui.
Vous avez un rapport constant, fréquent avec les autorités, avec les représentants de l'État. Vous œuvrez dans un sens. Est-ce que ce sens est pris également dans le même sens par ces autorités? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on prétend que vos réflexions ne sont pas les bonnes? Je voudrais savoir un peu comment vous réagissez. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes véritablement écouté?
Entendu, oui, écoutez, effectivement, on ne sait pas très bien, parce que par moments, on n'a pas eu l'impression d'être à l'écoute. Mais je vais vous dire, on ne travaille pas seul, en plus, on est plusieurs associations. Il y a aussi un certain nombre d'instances autorités, je pense en particulier à la CNCDH, qui est donc la Commission nationale des consultatives des droits de l'homme, qui est une institution qui a été fondée il y a je ne sais plus combien d'années, en 48, je crois, mm-hmm. par Cassin. Mm-hmm. Et bien, on participe à ces. Tous les ans, cette commission publie des recommandations qui sont donc officielles, puisque c'est bien une institution officielle qui doit donner des conseils au Premier ministre, qui doit recevoir ses rapports. Et puis, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de
suivi.
Pas beaucoup de suivi. Enfin,
et de réaction.
Si on pense, si on revient en Rome,
ouais.
Il y a une recommandation sur ne pas faire des expulsions forcées, d'une manière aveugle, enfin, faut qu'il y ait un contexte, il faut faire des diagnostics, il y a un certain nombre d'étapes auxquelles il faut procéder, eh bien, on s'aperçoit que ça ne change pas grand-chose et que les consignes, les recommandations d'une année sur l'autre se ressemblent parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de modifications sur ce sujet.
Juste une petite dernière question, Bruno Jamais, vous qui avez l'expertise à travers votre réseau ce maillage sur le territoire national et international, on vit dans une période où le repli sur soi ou le rapport à l'autre est de plus en plus compliqué, où la stigmatisation des uns envers les autres est de plus en plus effective. Est-ce que vous, par exemple, vous ressentez depuis quelque temps ces phénomènes sur le terrain et à travers les réflexions des gens qui vous font remonter la situation dans notre pays?
Effectivement, dans le cadre de l'association, à titre personnel, on s'aperçoit qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a à la fois, d'une manière forte, un repli sur soi, et en même temps, on constate un certain nombre de choses qui sont, au contraire, beaucoup allées vers les autres et les autres différents. Il y a toujours de très belles histoires de gens qui sont allés vers les autres et qui ont fait des. Et je pense que le film Spartacus et Cassandra montre comment. Quand ça existe, eh bien, ça permet des choses absolument merveilleuses. Le film, de ce point de vue, est tout à fait merveilleux.
Bon, c'est porteur d'espoir, quand même.
Ça peut, oui. Enfin, ce qu'il faudrait, c'est inverser l'équilibre, peut-être, de pourcentage des gens qui sont plus altruistes, peut-être, oui.
Bon, en tout cas, Bruno Jamais, merci de nous avoir accordé un peu de temps. On rappelle que vous serez présent jeudi soir dans le cadre de la diffusion de ce documentaire Spartacus et Cassandra du côté de l'Alticiné de Montargis. On peut juste rappeler à quelle heure, Dominique ?
Alors, le film Spartacus et Cassandra est un film de Yannis Nugent. C'est 20h30 à l'Alticiné de Montargis. Il y aura un animateur, c'est Georges Jugnot, qui est un cramé de la bobine. Et puis, bien sûr, on accueille avec un grand plaisir Bruno Jamais, donc, qui fait partie de l'équipe lutte contre les discrimination d'Amnesty International France avec le concours d'Amnesty International local.
Bon, à n'en pas douter, Bruno Jamais, les questions fuseront et je pense que vous serez en capacité de satisfaire les uns les autres, d'avoir des réponses de celles que vous vivez au quotidien à travers cette association d'Amnesty International France. Merci en tout cas, Bruno
Merci.
Jamais.
Merci beaucoup. Merci.
Et à jeudi.
Au revoir.
Merci. Au revoir. Voilà, on va se quitter sur notre petit quiz traditionnel.
Avant, William, je voulais parler du film de la semaine prochaine.
Ah bah oui.
On a un fort joli film intéressant qui s'appelle Phoenix. C'est un film allemand qui est réalisé par Christian Petzold. C'est l'histoire d'une femme qui revient d'un camp de concentration, qui a perdu un peu son physique, mais pas du tout sa mémoire, qui est une ancienne actrice. Et qui va se trouver plongée dans un univers particulier qu'elle maîtrise complètement à l'insu et pas du tout au plein gré de celui qui provoque les histoires. Bon. Je veux simplement vous dire que c'est un formidable film.
Il faut se préparer psychologiquement, là.
C'est un film très très fort. Ce film est réalisé, donc je dis, par Christian Petzold, et c'était notamment ce metteur en scène, celui qui avait réalisé quelque temps le film Barbara. C'était déjà un film assez fort, mais il continue dans la lignée, mais on remonte un peu dans le temps. Voilà, c'était donc l'actualité des Cramés de la Bobine. Je vous souhaite à tous une belle semaine, un bon week-end. Et à bientôt, William. Merci à JB. Et vive le cinéma.
Vive le cinéma. Bah, tiens, justement, dans le cadre de notre quiz Dominique, on l'a dénommé maintenant ainsi, quiz Dominique, petite réflexion avec un petit extrait musical à découvrir rapidement.
D'accord, je suis d'accord avec vous, c'est un quiz. Mais moi, j'ai trouvé que ça devenait de plus en plus difficile, donc j'appelle un joker. D'accord. Et quel joker j'appelle? J'appelle les auditeurs au bout de l'antenne, là. Tous les auditeurs qui écoutent, vous appelez la radio 02 38 98 57 55. 02 38 98 57 55. Vous me donnez un coup de main pour répondre au quiz de William. Il va m'envoyer une musique. Il faut absolument que je trouve. Mais vous pouvez m'aider. Je vous remercie déjà.
Bon, vous allez voir, c'est très facile. On reste dans le cinéma.
Oui, oui.
D'accord. C'est un acteur qui... un grand acteur français qui a disparu il y a pas très longtemps, il y a quelques années maintenant. C'est l'histoire d'un petit gamin passionné par le cinéma, et notamment par la cabine de projection.
Ouais. Et ça va prendre feu.
Voilà.
Et c'est Philippe Noiret.
Oui.
Mais je vais attendre, je sais, j'ai trouvé. J'ai trouvé, mais je vais attendre l'auditeur à l'antenne. Je vais attendre l'auditeur à l'antenne.
Dominique, il a besoin d'être aidé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe.
Oui, alors on a une bonne nouvelle, William.
Bon, on a un auditeur.
On a une auditrice qui a appelé tout de suite en disant « C'est pas possible, Dominique, vous ne connaissiez pas. » Elle s'appelle Karen. Elle a dit qu'elle habitait à Chalette. Et Karen m'a dit « Mais je confirme, c'est bien Philippe Noiret et c'est Cinéma Paradiso. »
Voilà. Bon, en tout cas, on aura noté que maintenant... Dominique, il a besoin d'assistante ou d'assistant?
Un joker.
Un joker. Bon, bah voilà, en fait, c'était pas une prise très compliquée. Merci, non. Dominique.